Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio, c'est bien sûr le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à notre cerveau et à son fonctionnement. Nous allons tenter de décrypter par quel miracle des réactions chimiques ou électriques à l'intérieur de notre organe roi peuvent aboutir à des émotions, des pensées ou même des actions que nous menons au quotidien pour faire cet éclairage ensemble. Notre invitée, ce sera Sylvie Chocron. Elle est neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Et elle est également l'auteur du livre « Une journée dans le cerveau d'Anna » publié aux éditions Erol. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Focus sur les varices, les problèmes de circulation au niveau des jambes. Quels sont notamment les métiers les plus à risque et surtout, comment traiter ce type de problème? Jimmy fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une question cruciale pour les amoureux. Faut-il tout se dire dans le couple?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 39-21. Et donc, on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Laurie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Vous avez reçu un pédiatre il y a peu dans l'émission et il a abordé les croûtes de lait des nourrissons. Justement, mon bébé d'une semaine en a pas mal et on n'arrive pas à les faire partir, ces croûtes. Quels sont vos conseils et puis de quoi ça pourrait venir? Merci beaucoup.
Alors pour vous répondre, Laurie, on a rappelé en fait le pédiatre auquel vous faites référence, qui était dans notre studio la semaine dernière. On écoute les conseils du pédiatre Arnaud Fersdorf.
Les croûtes de lait sont abusivement appelées croûtes de lait. En fait, ce ne sont pas des croûtes de lait. Ça n'a rien à voir avec le lait ou l'alimentation du nouveau-né. Tous les nouveau-nés n'ont pas ce problème-là. Et c'est souvent lié à un excès de sécrétion du sébum. C'est-à-dire c'est des glandes qui sont à la base des cheveux et qui vont provoquer des croûtes, parfois qui sont volumineuses dans certains cas, chez certains nouveau-nés. Le traitement approprié quand c'est localisé au niveau du cuir chevelu, parce que ça peut être localisé à d'autres endroits, mais c'est essentiellement le cuir chevelu, parfois le dos, eh bien, c'est d'utiliser un savon doux, de passer régulièrement, de rincer régulièrement. Je rappelle qu'on ne donne pas de bain plus que deux fois par semaine. Et alors, on peut utiliser de la vaseline qu'on va appliquer dessus une demi-heure ou une heure avant pour les faire fondre un peu. Et ensuite, on gratte un peu avec une petite brosse à cheveux légère. Et ce qui marche aussi, c'est de mettre parfois même un peu d'huile d'olive. On peut mettre dessus et masser dessus. Et aussi, le lait de la maman qui marche très bien sur les croûtes de lait.
Voilà, c'était les conseils du docteur Fersdorf au micro de Benjamin Lévesque. Et Jimmy, vous confirmez, hein, on peut s'en sortir, vous en attirez.
Vous commencez mal, Mélanie.
D'accord, mais on s'en sort, on est d'accord. Ça prend combien de temps à partir?
Oh là là, 33 ans après, je s'en souffre toujours.
Très bien, allez, passons tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous, Jimmy, écoutez bien. C'est Armel, elle a 29 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. En fait, on n'arrête pas d'entendre parler de Covid long. J'aurais aimé en savoir un peu plus. J'ai eu le Covid il y a 15 jours, ça va mieux, mais j'ai toujours de fortes maux de tête et je tousse un peu. Est-ce qu'on peut déjà parler de Covid long? Quels sont les examens ou bilans que je dois faire pour vérifier que j'ai pas de séquelles? Voilà. Merci pour vos réponses, bonne émission.
Bon, merci beaucoup Armel pour votre question. Alors Jimmy, déjà à partir de quand peut-on parler finalement d'un Covid long? Alors dans le cas d'Armel, je pense que je peux m'avancer un peu, mais elle est à 15 jours du pic, on va dire, de sa maladie, du début de sa maladie. On ne parle pas encore de Covid long, non?
Non, on n'a pas de définition clairement établie. 15 jours, c'est évidemment trop court, puisqu'on sait que lorsque vous avez des symptômes de Covid, une des particularités, c'est d'avoir des maux de tête. Vous avez des récepteurs
moi, ça a duré
dans le
un
cerveau,
mois.
Exactement.
Ouais.
Vous allez avoir ces maux de tête qui vont parfois persister. Alors moi, ce que je vous conseille, si ceux-ci sont vraiment très intenses, c'est de revoir votre médecin, parce que premièrement, vous avez le droit d'avoir une sinusite si jamais vous avez été enrhumé, donc ça se trouve, il faudra juste un peu d'antibiotiques. Et puis, certaines personnes vont avoir des maux de tête tellement invalidants, très intenses, tenaces, qui ne passent pas malgré le paracétamol, et on a tendance à faire des examens pour être sûr qu'il n'y a pas un petit saignement, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un accident vasculaire cérébral à cause du Covid. Donc, soyez prudents et ne négligez pas vos symptômes. Mmh. Allez voir votre médecin, et si tout va bien, il vous renverra avec du paracétamol, mais 15 jours, c'est trop tôt pour définir un Covid long.
Et donc, un Covid long, c'est quoi? C'est à partir de combien de... On n'a pas de définition, j'ai bien compris, mais ce qu'on décrit, ce qu'on entend en ce moment, c'est quoi?
Alors, c'est des symptômes qui sont multiples et variés. Ça va de la fatigue, de la tachycardie, de l'essoufflement, des maux de tête, des douleurs articulaires, plusieurs semaines après un Covid.
Voire mois, même, je crois. Ouais.
Il faut attendre au moins un mois. Alors, et parfois, c'est plusieurs mois. Le problème, c'est que la fréquence, elle dépend des études. Ça va de 2% à 90%. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la part des patients qui vont en souffrir. Et ce qu'on pense, c'est que plus vous avez eu de symptômes lors de la phase initiale de la maladie, plus vous avez des chances ou des risques d'avoir des séquelles. Donc ça veut dire que la meilleure façon de l'éviter, bah, c'est de ne pas l'attraper, puisque pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup sur ce Covid long.
Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller à des patients comme Armel? D'ailleurs, elle demandait comment je peux être sûr que je n'ai pas de séquelles.
Alors,
est-ce qu'il y a des examens à faire après?
Allez voir votre médecin traitant, ouais. On fait une prise de sang, être sûr qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Si on a un doute, on fait des examens, notamment un scanner thoracique, si jamais vous avez un essoufflement. Et puis, on vous adresse rapidement à un centre expert de maladies infectieuses, puisque des protocoles sont en cours.
Il y en a quelques-uns qui se montent, hein, effectivement. Quelques-uns sont en banlieue parisienne,
avec des protocoles expérimentaux, on va vous donner des corticoïdes, des anti-inflammatoires, certains traitements pour voir si on ne pourrait pas améliorer vos symptômes. Mais encore une fois, le virus n'a pas livré tous ses secrets, et donc il va falloir attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, car à ce stade, on n'a pas de vraie explication. On sait qu'après une grippe, par exemple, vous allez fatiguer pendant une à deux semaines, parfois un peu plus. Dans la mononucléose, ça peut durer des mois. Et pour le Covid, on ne sait pas trop. On ne connaît pas encore bien les mécanismes. Est-ce que c'est le système immunitaire qui s'emballe? Est-ce que c'est le système nerveux autonome dans le cerveau? Vous avez un système qui va réguler la fréquence cardiaque, qui va s'emballer. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'explications très claires. Donc soyons prudents et n'hésitez pas à aller voir votre médecin traitant.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Armel qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir avec nous en studio notre invité du jour, c'est vous Sylvie Chocron, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris. Et vous êtes également l'autrice du livre Une journée dans le cerveau d'Anna, paru aux éditions Erol. Alors justement, dans le cerveau d'Anna, on va y faire un tour puisque c'est le titre de votre livre, mais c'est aussi finalement un roman, l'histoire d'une fille Anna, donc qui a 25 ans, qui est citadine active. Et c'est un peu ça, on va suivre donc tout au long du livre sa journée, une journée type, on va dire, et découvrir son quotidien et en même temps ce qui se passe donc dans son cerveau. Alors c'est qui Anna d'abord ?
Bah, Anna, je crois que c'est avant tout mes filles qui s'appellent Anouk et Nina et qui, depuis qu'elles sont petites, me demandent chaque jour ce qui se passe dans leur cerveau.
Avec une maman neuropsychologue,
voilà,
effectivement.
Quand il se passe ceci ou cela. Mais c'est aussi moi, c'est aussi vous. C'est pas seulement une jeune fille, ça pourrait être un monsieur plus âgé. En fait, j'ai vraiment eu envie de raconter ce qui se passait à notre insu, dans notre cerveau, pendant qu'on vit toute une journée.
Et justement, on va suivre Anna toute une journée, du matin au soir. Et donc, ça commence à 6h45 lorsque le réveil sonne et c'est dur, vraiment dur. Est-ce que ça s'explique ?
Alors oui, ça s'explique parce que dans nos sociétés, au rythme où on a une dette de sommeil vraiment chronique. On essaye de la rattraper le week-end, mais en fait, on explique qu'on a un terme maintenant pour exprimer ça, qui est le jet lag social. Et donc, en fait, on va veiller un petit peu tard le week-end, on va se réveiller plus tard. On a l'impression qu'on a récupéré, mais en réalité, quand le rythme va reprendre, on va être quand même très, très fatigué. Et donc, ces réveils difficiles qu'on vit tous, c'est un petit peu notre lot quotidien. Et on est un petit peu comme Anna, on a beau essayer de récupérer quand on peut, il nous faudrait de beaucoup plus longues périodes où on dort plus. Mmh. Pour ne pas ressentir ça.
Alors votre livre, je précise qu'il est fait donc de cette histoire, ce roman autour des journées d'Anna, ce qui se passe dans son cerveau, mais aussi une partie où chaque chapitre, finalement, chaque moment de la journée est décrypté aussi d'un point de vue scientifique, avec ses sourcées, enfin il y a des études qui sont expliquées. Et notamment, vous expliquez que si Anna, finalement, elle vivait dans une maison sans électricité, comme certains peuples au Brésil, par exemple, bah peut-être qu'elle aurait moins de difficultés de sommeil.
Exactement, donc vous avez raison de le préciser. Tout ce dont je parle a été publié dans des grandes revues et j'ai fait le choix de le raconter comme un récit, mais d'avoir à la fin du livre des petites vignettes scientifiques pour aller plus loin et toujours les références qui correspondent. Et parmi ces références, il y a effectivement une étude qui a été faite et qui a montré que dans les villages où il n'y a pas encore l'électricité, il en reste encore quelques-uns dans le monde, finalement, notre cycle biologique va se caler sur la lumière, sur le cycle de la lumière extérieure, et on va dormir en moyenne une heure de plus par nuit. Et donc, cette réduction du sommeil dans les pays où on a non seulement l'électricité, mais beaucoup, beaucoup de stimulation, ben finalement, elle est due à notre mode de vie, à l'absence de lumière naturelle, et puis à tout ce qu'on fait avec l'électricité, et en particulier les réseaux.
6h55, elle se brosse les dents et elle aimerait se souvenir du rêve qu'elle a fait la nuit passée, sauf qu'elle n'y arrive pas. Pourtant, c'est une femme et elle devrait peut-être y arriver un peu plus que les hommes. Non
Mais c'est vrai que les femmes font tout mieux que les hommes, ouais, c'est évident. Mais oui, en fait, on a montré que les femmes avaient tendance à mieux se rappeler de leurs rêves, peut-être parce qu'elles les racontent plus, peut-être que c'est juste un effet culturel. Mais en tout cas, ce qu'on sait depuis quelques années, c'est que pour se rappeler d'un rêve, il faut que la mémoire fonctionne. Et pour que la mémoire fonctionne, il faut être un petit peu conscient. Et donc finalement, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle de bien se rappeler de ses rêves, parce que ça veut dire qu'on se réveille fréquemment dans la nuit et que c'est ces moments de réveil qui font que la mémoire fonctionne et qu'on va s'en souvenir. Donc finalement, c'est peut-être mieux de ne pas se rappeler de ses rêves.
Parce que ça veut dire très souvent. Donc ça veut dire que j'ai un sommeil sûrement très,
très fragmenté.
Ah, oui,
exactement.
D'accord. Alors Anna, ensuite, dans le reste de sa journée, elle va donc au travail, hein, comme beaucoup de monde. Et elle choisit de passer par un parc au milieu d'arbres plutôt que dans les rues grouillantes de voitures, parce que c'est prouvé, ce que l'on voit finalement dans son champ visuel, comme ça, par exemple, au début de la matinée, eh bien, ça va avoir une influence sur notre cerveau. Ça va même nous rendre plus créatifs.
Mais oui, tout à fait. En fait, on sait que quand on vit en ville, on est exposé d'abord à des nuances de gris, hein,
oui, ça,
gris clair au noir, et surtout à des angles. Et à la différence de la ville, quand vous vous promenez dans un environnement naturel, il n'y a plus d'angle, le paysage n'est plus géométrique, il est absolument imprévisible, avec des nuances d'autres couleurs, d'autres bruits aussi, hein, le son des oiseaux, etc. Et le contact avec la nature va immédiatement agir comme vraiment un antagoniste du stress, et aussi un moteur pour la créativité. Et donc, on dit souvent qu'une demi-heure passée dans la nature permet de récupérer des capacités attentionnelles et de doper sa créativité.
Ça veut dire que les gens des villes sont plus stressés et déprimés que ceux qui seraient à la campagne simplement à cause de la nature ?
Alors oui, vous ne croyez pas si bien dire. Il y a eu des études nord-américaines qui ont été faites et qui ont essayé de corréler le sentiment de bien-être d'un sujet et son sentiment vraiment d'être en bonne santé aussi, et le nombre d'arbres autour de lui. Donc on a compté, ça a été fait au Canada, et il y a une corrélation positive. Plus vous avez un environnement vert autour de vous, plus vous avez le sentiment d'être en bonne santé et mieux vous vous sentez.
Bon, moi je vais mettre un fond avec des arbres sur mon ordinateur. Parce
alors,
que
ce qu'on
ne
sait pas, voilà, ce qu'on sait pas, c'est si le fond d'écran suffit. Oui. Je doute, parce qu'il y a aussi l'expérience vraiment physique.
Ouais, et en 3D, je pense. Alors Sylvie Chocran, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité c'est vous, Sylvie Chocran. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris, et également l'autrice du livre Une journée dans le cerveau d'Anna, paru aux éditions Erol. Alors avec vous cet après-midi, on suit donc la journée d'Anna, le personnage principal de votre livre, et on regarde finalement étape par étape ce qui s'y passe pour comprendre ce qui se passe dans le nôtre de cerveau aussi. Alors Anna, dans la matinée, elle a une grosse présentation devant ses boss au travail. Elle est très stressée, évidemment, beaucoup de pression, alors qu'elle a beaucoup travaillé. Mais une fois sur le point de démarrer cette présentation, c'est le trou noir et c'est normal, vous dites.
Alors oui, c'est normal parce que le stress et la mémoire entretiennent vraiment des relations très, très étroites. On sait par exemple que c'est pas bon d'apprendre avec du stress. Et on sait aussi qu'au moment où on va rappeler un souvenir, bah, le stress peut bloquer tout simplement le chemin pour aller chercher ce souvenir. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Anna, qui nous est arrivé à tous, qui arrive aux enfants, quand tout d'un coup ils sont devant leur feuille, alors qu'ils ont appris leur leçon. Et donc effectivement, il y a différents types de stress. Il y a le stress qui est supportable, qui peut même être un moteur. Et puis il y a le stress qui est intolérable. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut éviter de se confronter à ce stress-là. Mais dans le cas d'Anna, donc, ce que j'explique, c'est qu'au moment où survient le trou noir, il faut absolument essayer de contrôler ce stress, déjà en ralentissant sa respiration.
Méditer quelques secondes, en fait, c'est ça.
Comme si on faisait une mini séance de méditation, on va se concentrer sur sa respiration, si possible respirer avec le ventre, et puis ralentir voilà, le rythme cardiaque, se dire qu'on a appris ce dont on doit parler, et finalement se mettre presque en pilotage automatique. Et je dirais que ce qui enlève aussi du stress, c'est de profiter du moment, de se dire qu'on a fait tout ce travail, que ce moment ne se représentera pas et qu'il faut en profiter.
Et justement, Anna, après ce gros coup de stress à sa réunion, elle a envie de se détendre, elle a besoin de rigoler, parce que rire, c'est aussi bon pour le cerveau, ça pourrait aider même à mémoriser mieux.
Oui. Alors, tout à fait. Donc, rire, c'est bon pour tout le corps. Donc, on sait que c'est bon pour le cœur. On sait que c'est bon pour
l'organisme. C'est pour ça qu'on rit beaucoup dans cette émission. On se fait du bien, en fait, hein, Jimmy.
Vous avez tout à fait raison. C'est bon pour l'organisme en général. Et puis, c'est bon pour le cerveau et ça sert à apprendre. Alors, pourquoi est-ce que ça sert à apprendre ? Parce que les émotions servent à mémoriser. Et plus un souvenir est lié à une émotion, plus il va être facile à mémoriser. Et si cette émotion est positive, comme le rire, ça va être encore plus efficace. Et
donc il faut apprendre à nos enfants à apprendre leurs leçons en plaisantant.
C'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites dans mon laboratoire chez des enfants de 18 mois. à qui on apprend à se servir d'un outil. Si pendant la séance d'apprentissage, on les fait éclater de rire en faisant tomber par exemple l'outil, ils vont retenir beaucoup plus facilement et apprendre plus facilement à s'en servir. Donc n'hésitez pas, vraiment, utilisez l'humour.
Comment je fais pour les leçons de physique chimie avec mon fils là, parce que c'est parce pas drôle.
Il va, oui, l'humour il va dans falloir... la physique chimie, dans les atomes.
Il va falloir les mettre en scène.
Il va falloir préparer un spectacle alors, Jimmy.
Alors Anna, c'est une jeune citadine, elle est très active, elle a l'impression de pouvoir être multitâche, écouter une conversation tout en envoyant un texto, finir un dossier,
c'est
mais
un peu
en
vous,
réalité.
En fait, hein. C'est ça,
mais... c'est, ouais, pas tellement, les hommes ne sont pas très multitâches. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau? On a vraiment cette capacité à faire plusieurs choses à la fois?
Alors non, en fait, c'est vraiment une illusion. Donc on a l'illusion qu'on peut être multitâche.
Même pas les femmes plutôt que les hommes, non?
J'ai envie de vous dire que les femmes, par nature, font tout le temps plein de choses à la fois. Mais même les femmes, si elles sont si fatiguées, c'est parce qu'on ne peut pas diviser notre attention entre tellement de tâches. Je vous donne un exemple. On peut marcher et parler en même temps parce que la marche est automatisée. Ah oui. Mais si on doit marcher avec des talons aiguilles sur du verglas, bah la marche va se désautomatiser et on ne pourra plus parler en même temps. Ah ouais. Et donc, on ne peut faire deux choses en même temps que si une est automatisée. Si les deux tâches demandent de l'attention, ce n'est pas possible. Ça va être épuisant et générateur d'une grande fatigue et d'un grand stress.
Alors justement, petit conseil expliqué dans votre livre, quand on doit terminer une tâche qui demande beaucoup d'attention, alors pas plusieurs, une tâche, hein, on va dire, mais qu'on n'y arrive pas parce que parfois on est crevé, on n'en peut plus, c'est la fin de la journée, mais il faut terminer ce dossier, vous dites qu'il vaut mieux tout laisser en plan et aller s'aérer un petit coup.
Ah oui, parce que aller s'aérer quand vous avez une très grosse journée et que vous n'arrivez plus à mobiliser votre attention, ça va vous permettre vraiment de restaurer vos capacités attentionnelle. Donc, il vaut mieux faire une vraie coupure, récupérer sa disponibilité attentionnelle et se remettre à la tâche. De manière générale, un conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut toujours faire une pause avant le moment où on n'a plus d'attention. Donc, il faut faire une pause tant qu'on a de l'attention, parce que ce sera plus facile de s'y remettre après. Si on n'a plus du tout de capacité attentionnelle, on pourra plus se remobiliser.
Au cours de sa journée, Anna, elle fait ce qui arrive à tout le monde. Elle croise quelqu'un au niveau de la photocopieuse, un homme, elle connaît le visage, mais impossible de se souvenir de son prénom.
Comme quand vous arrivez dans ce studio, à chaque fois, je me dis, mais c'est qui celui-là?
C'est qui celui-là? Mais est-ce qu'elle perd la boule, Anna, ou c'est quelque chose de normal?
Non, alors on peut rassurer toutes les personnes à qui ça arrive, ça nous arrive à tous.
On reconnaît le visage, mais on ne sait pas qui c'est.
Exactement. Donc on aurait dans notre cerveau une région qui centralise toutes les informations qui sont relatives à un visage. Donc, l'apparence visuelle, évidemment, toutes les connaissances qu'on a sur cette personne, sa voix, si elle se mettait à parler, son nom, son allure, sa posture, son habillement, etc. Mais le sentiment de familiarité visuelle, il est codé de manière beaucoup plus automatique. Et c'est même quelque chose qui résiste quand on a une lésion cérébrale. Des fois, des patients ne reconnaissent plus les personnes, mais ils savent que c'est quelqu'un qu'ils devraient connaître. Mmh. Donc ce sentiment de familiarité visuelle, il est très ancré. Par contre, si on n'évoque pas souvent le nom des personnes, on va avoir du mal à retrouver le nom. Donc c'est le fait vraiment d'aller chercher cette trace. Donc si vous voulez vous souvenir des noms, il faut quand vous pensez aux gens ou quand vous les croisez, évoquer leur nom systématiquement.
Ah oui. Une petite astuce, hein, Jimmy, vous reconnaîtrez tout le monde à la photocopieuse désormais. Sylvie Chocron, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Sylvie Chocron. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris, mais également l'autrice du livre « Une journée dans le cerveau d'Anna » paru aux éditions Erol. Alors on poursuit justement avec vous dans la journée d'Anna, votre personnage principal, qui a donc l'impression par moment que son cerveau déraille. Elle a des trous de mémoire, elle oublie même des prénoms, alors qu'elle n'a que 25 ans pourtant, mais elle a déjà conscience que ce qu'elle mange à l'heure du déjeuner peut avoir un impact dans le bon ou le mauvais sur son système nerveux.
Alors oui, tout à fait. Ce que j'explique, c'est qu'on fait toujours très attention à l'essence qu'on met dans notre voiture, est-ce qu'on prend du premium ou pas, etc. Mais on n'a vraiment aucune notion de l'effet de notre alimentation sur notre cerveau.
Moi, j'y pense pour ma ligne éventuellement, mais pas pour ma tête.
Mais pas pour notre cerveau. Et donc, et pourtant, notre cerveau, il travaille jour et nuit, puisque pendant la nuit, il travaille aussi. Et donc, ce qu'on va manger va être forcément très important. Et on sait maintenant que ce qui va être bon pour le cerveau, ça va être les acides gras, certains minéraux, les vitamines, enfin bref, la nourriture saine qui va éviter une oxydation trop précoce des neurones et un vieillissement trop précoce de nos neurones. Donc il y a un enjeu qui est quand même très important. Si on veut un cerveau qui fonctionne bien et longtemps, il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on mange.
On va essayer de continuer de décrypter la journée d'Anna. Après le déjeuner, elle pique du nez, elle s'endort au bureau. Bon, pourquoi pas, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, ici, on a une salle de sieste qu'on n'utilise jamais. En
nous,
tout
non,
cas.
Mais il y en a et c'est très bien.
Mais du coup, est-ce que c'est bien justement pour le cerveau de faire une sieste?
Alors, c'est très bon pour le cerveau de faire des pauses de manière générale et même des mini-siestes, parce que c'est pendant ces périodes de pause ou de mini-sieste que le cerveau va consolider, va ancrer les traces mnésiques, les souvenirs de ce que vous venez d'acquérir. Mmh. Et donc, du coup, il a besoin véritablement de ces pauses. Si vous enchaînez les tâches et que vous enchaînez les apprentissages pendant toute une journée sans faire une pause, ben, il n'a pas ce temps de consolidation des souvenirs. Par contre, attention, il ne faut pas faire non plus trop de siestes, parce que sinon, on a une inactivité.
Pas trop longue, et pas trop
souvent non plus.
Combien de temps
Disons qu'une petite sieste maximum de 30 minutes déjà par jour, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Alors, il faut avoir le temps. Hein. Mais sinon, c'est important aussi de préciser pour les personnes qui auraient le temps de faire de longues siestes et plusieurs fois par jour, que c'est quand même pas bon pour le cerveau.
Ah oui.
Parce que du coup, le cerveau est trop inactif et du coup, c'est un risque de déclin cognitif. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Une petite pause, on n'a même pas besoin de dormir forcément, hein, ou une micro-sieste, ça va suffire à consolider tout ce que vous venez de faire et à utiliser au mieux votre cerveau.
Donc la sieste, ni trop ni pas assez, hein, Dimitri.
Ça me va. Alors au réveil, comme beaucoup, elle a, après le petit coup de barre, elle prend un café pour se booster. Et c'est une chose assez étonnante, le simple fait de voir le café pourrait nous rebooster.
Voir, le regarder, hein, c'est ça.
Ah oui.
Mais oui, tout à fait. Alors en fait, il y a un véritable effet de la caféine. Donc si, même si vous, on vous donne une boisson transparente avec de la caféine dedans, ça va avoir un effet. Mais on a aussi un conditionnement à la vue et à l'odeur du café, qui fait que la simple vue ou simplement le fait de sentir le café fumant devant soi suffit à booster notre cerveau.
Incroyable.
C'est pas le même effet.
On est dressé un peu en quelque sorte.
Exactement, on est conditionné. Donc il y a un effet pur de la caféine et un effet du conditionnement à la vue du café dont on sait que ça va nous booster. Donc c'est pour ça qu'on est conditionné.
Au lieu d'en boire 6, moi je sais que ça me fait mal, je pourrais en boire que 3.
Exact.
Et regarder 3 fois
les
photos
du café. D'accord.
C'est exactement ça. Mon frère, les 3 autres, parce que vous m'avez fait aucun café depuis le début.
Oui, c'est vrai, je vais vous les offrir. Très bien. Le cerveau, c'est la même chose pour l'activité physique. D'ailleurs, pensez qu'on court, ça a sur le cerveau le même effet que de courir vraiment, c'est ça? Alors, peut-être pas sur les kilos et sur les muscles. Hein, mais...
Non, alors en fait, vous savez que souvent, les skieurs, par exemple, ou les golfeurs, avant de descendre une piste pour les skieurs, ou avant de taper dans leur balle, on les voit travailler leur imagerie mentale. Parce que l'imagerie mentale du geste va activer les mêmes régions que quand on va véritablement faire le geste. Donc l'imagerie mentale, y penser, c'est bon pour s'entraîner pour un geste. Par contre, quand on fait véritablement l'activité physique, on va irriguer notre cerveau de manière plus importante parce qu'on va respirer plus, etc. Et cette irrigation, elle est très bonne pour notre cerveau. Donc, imaginez faire du sport n'est pas aussi efficace qu'en faire.
Vous avez compris, ça ne suffit pas le casque là, de réalité virtuelle.
Mais c'est un bon début, on va dire, je me contente de ça. Alors Anna, comme beaucoup de millénials, elle peut ne pas s'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un truc extraordinaire, réduire de 10 minutes simplement le temps passé sur les réseaux sociaux améliore l'humeur, 10 minutes en moins.
Alors
seulement.
Je pense que vous parlez d'une étude américaine, alors c'est 10 minutes par réseau. Et donc il y avait 3 types de réseaux différents, donc c'était 30 minutes. Donc c'était la réduction Facebook Instagram, ouais. Etc. D'accord. Donc réduire de 30 minutes améliore véritablement l'état psychique des jeunes. Et donc c'est vraiment important, et effectivement ces 30 minutes, elles vont être consacrées à de vraies interactions, ou à quelque chose justement de plus cognitif hein, qu'on va faire avec son cerveau. Et du coup, on va éviter tout ce temps passé à simplement regarder la vie des autres, qui peut être déprimant parce qu'on a l'impression que leur vie est plus agréable que la nôtre.
Merci beaucoup Sylvie Chocron. On aurait pu faire 10 émissions
avec vous.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur ce qui se passe finalement dans notre cerveau. Je rappelle, pour ceux qui voudraient en savoir plus, votre livre « Une journée dans le cerveau d'Anna » paru aux éditions Erol. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Avec cette question qui a motivé cette séquence, question qui nous a été laissée sur notre répondeur par Morgane. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai des veines qui sortent au niveau de mes jambes. Et comme je travaille dans la restauration, il paraît que c'est fréquent dans mon métier. J'ai l'impression que ce sont des varices et je voulais savoir comment je peux identifier ça et ce qu'il faut faire pour les traiter. Merci pour vos réponses. Bonne journée.
Jimmy, alors ce que décrit Morgane, est-ce que ça peut faire penser à des varices, même si bien sûr, on ne fait pas de radioconsultation ici, hein, évidemment, mais on peut peut-être juste au moins un petit peu l'orienter, varices or not varices alors.
Oui, that is the question. Oui, ça ressemble à des varices, hein, une dilatation des veines qu'on a au niveau des jambes avec un terrain prédisposant, on en reparlera après, c'est son métier. Donc oui, je ne prends pas trop de risques à dire que ça ressemble à des varices. Et à mon avis, les Français ont aussi reconnu ce qu'elle décrit, que c'est des varices.
Donc même sans avoir besoin du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, quand même, on a besoin de vous. C'est quoi physiologiquement une varice?
Oui, parlons physiologie, parlons
voilà,
un peu science.
Un peu science, et alors, que votre diplôme de médecin vous serve à quelque chose.
Exactement,
quand même,
je justifie un peu mon salaire ici, contrairement à d'autres, hein, Mélanie. Alors, la varice, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie des veines et des parois veineuses.
La varice, hein, pas la varice. Hein,
oui, les varices, oui, la, oui, les varices. C'est des maladies des veines et en tout cas de la paroi veineuse. Alors, d'une façon normale, les veines servent à faire remonter le sang du bas vers le haut. Et pour ça, vous avez des petites valves qui vont empêcher le sang de stagner. Or, lorsque ces valves ne marchent pas bien ou sous l'effet de la pesanteur lorsqu'on reste debout toute la journée, eh bien, il y a un reflux, le sang va stagner, les veines vont se dilater et donc ça va donner ces varices qu'on peut observer.
D'accord, elle dit qu'elle travaille dans la restauration, vous l'avez un tout petit peu abordé, ça veut dire que c'est un métier à risque la restauration, oui, vous dites debout longtemps.
Oui, alors il y a plusieurs choses, il y a déjà un terrain héréditaire, si vous avez dans vos antécédents la maman, le papa qui a des varices, vous avez plus de risques. C'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme, surtout à des périodes clés au moment de la grossesse, au moment de la ménopause, juste avant le cycle menstruel, donc elles sont plus prédisposées que les autres. Et puis, il y a d'autres facteurs, le métier, tous les métiers où il y a une station debout prolongée.
Les hôtesses de l'air, je crois,
les
aussi.
Les hôtesses de l'air, les serveurs, les cuisiniers, et puis aussi les chirurgiens en bloc opératoire, ils ont souvent des varices.
Bah oui, et c'est pour ça qu'ils portent des bas de contention.
Ils portent des bas de contention, exactement. D'accord. Et puis aussi, on sait que la consommation d'alcool, l'hypertension artérielle, ou une exposition à la chaleur prolongée, on pense aux pizzaïoles par exemple, ils peuvent avoir justement ces varices. Donc il y a tout un tas de facteurs qui peuvent les déclencher.
Alors quand on souffre de varices et donc d'insuffisance veineuse, quand ce retour veineux se fait pas bien et que ces valves déconnent en quelque sorte, à qui on doit en parler? À son généraliste? On va directement voir un cardiologue? Je ne sais pas.
Alors dans un premier temps, vous en parlez au médecin puisque les varices auront tendance à évoluer dans un second temps. Donc ne les traitez pas par le mépris. C'est la meilleure façon d'avoir des symptômes plus invalidants. Donc dans un premier temps,
ça se traite,
c'est le généraliste.
Varices, ouais.
Exactement. Dans un premier temps, on vous donne des bas de contention puisque je vous ai dit que c'était le sang qui stagne. Donc on veut le faire remonter et donc on donne soit des bas ou des mi-bas de contention parce que parfois on n'a pas envie en été d'avoir ces collants qui vont remonter jusqu'à la cuisse.
Il y a même des chaussettes, je crois.
Il peut y avoir des chaussettes de contention. Il y a plusieurs classes de contention. Certaines vont être très serrées si vous avez une maladie très évoluée des varices. Et puis parfois on donne une petite contention. Et puis dans un second temps, si jamais ça ne marche pas, que vous avez des symptômes plus invalidants, puisqu'il peut y avoir des troubles cutanés, de l'œdème, parfois ça peut évoluer jusqu'à des ulcères.
Ah oui.
On oriente vers le phlébologue qui peut scléroser, c'est-à-dire les griller en quelque sorte, hein, je schématise, ces varices pour que ce soit moins invalidant, car les traitements médicamenteux, ceux qu'on va vous donner, qu'on peut acheter à la pharmacie sans ordonnance, les anti-veineux, alors,
les vénotoniques.
Des vénotoniques, là, ça fait plaisir, mais ça ne marche pas. Mmh. Aucun n'a fait preuve de son efficacité dans des études sérieuses.
Ils ont été déremboursés, d'ailleurs.
Et c'est pour ça qu'ils sont déremboursés. Donc, les bas de contention, et si ça ne marche pas, on va voir le phlébologue. Et
rien ne vous empêche d'en prendre si ça vous fait du bien, mais il faudra payer, c'est ça. Hein. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui on a une question de Simon que le docteur Jimmy Mohamed va nous lire avec plaisir.
Évidemment. Alors, faut-il se dire tout dans le couple? Ma femme voudrait tout savoir de mes aventures précédentes. Elle m'interroge tout le temps sur mes collègues féminines de bureau pour savoir si je les trouve jolies, etc. Bref, j'ai le droit d'avoir un jardin secret, non? Alors Catherine, j'ai l'impression qu'il y a deux questions dans ce qu'il nous dit. Un, celle de ses aventures précédentes.
Ça y est, on a
précédentes.
La psychanalyse du docteur Jimmy Mohamed.
Mais non, c'est subtil.
C'est subtil. Je vous laisse faire, je ne suis pas là.
Mais c'est, voilà, exactement. Laissez faire l'artiste. Il y a deux questions. Celle de ses aventures précédentes et celle de ses collègues de bureau actuels. Tout d'abord, est-ce qu'il faut absolument connaître la vie antérieure de son partenaire? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça?
Alors non, je crois que nous avons tous la curiosité de savoir qui était l'autre avant, bien sûr, parce que on a un peu l'idée de ce dont il serait capable, pas capable, etc. On a toujours cette curiosité en plus pour se protéger, avec toujours une idée de maîtriser un petit peu l'autre et ce vers quoi il pourrait tendre. Ceci étant, c'est sa vie et on n'est pas que le reflet de notre passé. Notre passé est aussi un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de découverte, c'est un lieu d'erreur, c'est un lieu donc d'apprentissage. Non, mais il y a aussi, mais on apprend nos erreurs, elles sont nécessaires, ce sont des occasions d'apprentissage et ce serait triste de réduire quelqu'un à ce qu'il a fait dans le passé sans lui donner la possibilité d'en avoir fait quelque chose d'autre et notamment avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire.
Donc finalement, le passé, on l'oublie, c'est de la curiosité, on va dire, qui ne sert pas à grand-chose. Mais les collègues actuels de bureau, est-ce qu'il faut répondre ?
Je sens que vous aimez plus ça, que vous seriez de, ce côté, de cette tangence-là.
Est-ce qu'on a le droit de regarder dans le portable de son conjoint, par exemple, ce genre de choses ? Je ne le fais jamais, chose, hein, moi. Mais...
Non, alors, de toute façon...
Je lui fais peut-être, mais il y a longtemps.
Je crois qu'en effet, on a tous la nécessité d'un jardin secret. Alors, quand je dis jardin secret, il y a... Entendons-nous bien.
Mais c'est quoi le jardin secret ?
C'est pas de développer nécessairement des vies parallèles, c'est pas de ça dont je parle. C'est que nous avons automatiquement un regard sur le monde et on n'est pas obligé de le commenter. Ça me plaît, ça me plaît pas, elle est belle, elle est pas belle, elle m'aurait plu si je l'avais rencontrée avant toi ou si tu n'avais pas existé
vicieux,
dans ma vie.
Marie qui commence à lui faire ça mais en rentrant, moi j'ai juste envie de le frapper.
Si j'étais célibataire, je ne dis
là,
pas.
Ça va un peu loin, là,
non, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons automatiquement, nous regardons le monde. Ah, si j'avais cet âge, j'aurais aimé cette fille ou ce garçon, etc. On a tous ça. Ça ne fait pas pour autant, ce n'est pas pour autant une
ça, c'est le jardin secret, alors, c'est
oui,
ça
mais c'est une pensée qui circule. C'est un truc qui ne s'arrête pas. Ça n'est pas une obsession. C'est juste une pensée qui...
Mais ça, on en a tous, des pensées.
Et on en a
sûr.
Tous. Et on ne peut pas passer son temps à les raconter parce qu'elles seraient prises comme une situation ici et maintenant d'une préoccupation qui remettrait en question éventuellement la relation.
Mais là, la femme de Simon, donc, qui lui demande si ses collègues de bureau sont jolis, s'il les trouve jolis, elle abuse un peu, elle est très très jalouse, non, surtout, je pense.
Non, je crois... En fait, la notion de jalousie, c'est pas ça qui...
C'est pas ça. C'est,
enfin, si, mais ça raconte autre chose, qui est la fragilité qui est la sienne.
Ah, oui.
C'est-à-dire le doute qui est le sien, donc sa fragilité narcissique et le besoin de réassurance. Et ce besoin de réassurance, il est dans le regard exclusif qu'elle attend posé sur elle-même, avec l'idée de toute façon qu'elle a arbitré elle-même, qu'elle n'était pas à la hauteur, pas assez bien, et du coup elle suppose des pensées qui corroborent sa propre lecture d'elle-même.
Du coup, quand elle l'interroge sur ses collègues de travail, est-ce qu'il peut lui répondre que tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, donc
oui,
tout ce qui se passe au travail
ça,
reste au
bons
travail
conseils, Jimmy,
est-ce que c'est un bon conseil qu'on pourrait lui donner?
Alors,
vous devriez ouvrir un cabinet de sexologie.
Dans les faits, je suis assez d'accord avec vous, mais je crains que cela laisse supposer qu'il se passe donc des choses à Las Vegas.
Las Vegas, il y a trop de paillettes.
Oui,
c'est
l'analogie était peut-être moins bonne. J'aurais dû prendre une ville moins sympa.
Voilà.
Bon, elle lui dit quoi alors? Au lieu de dire Las Vegas, non, peut-être pas, mais en gros, lui dit ça ne te regarde pas, et puis c'est tout.
Non, je crois
que c'est violent de répondre ça ne te regarde pas.
Oui, parce que
ça attire la suspicion.
Tout ça suppose qu'il y a des choses. Non, je crois que c'est dire.
Elles sont toutes moches au travail, t'inquiète pas, t'es la plus belle.
Non,
mais ça, c'est un mensonge.
Ça aussi, ça ne tient pas la
route. Moi, je voudrais pas.
Non, vous êtes tous les deux là-dedans. Ce ne sont pas des bons conseils. Je pense que
le conseil de Catherine pour terminer.
Mais le conseil, c'est que considérant que c'est la fragilité et l'inquiétude, il faut rassurer la personne sur elle-même, quant à elle-même. Donc c'est lui dire, mais ma chérie, pourquoi tu me poses ces questions? Tu doutes tellement de mon amour pour toi, tu doutes tellement de ta beauté, tu doutes tellement de ta
compétence. Tu ne devrais pas, évidemment.
Tu ne devrais pas. Qui ai-je épousé ou avec qui je vis, toi ou avec une autre, avec toi? Point.
Oh, très bien, merci beaucoup. C'est vrai que c'est mieux que Las Vegas, tout ça.
Oui,
on a eu des mauvaises pistes, Jimmy.
C'est un métier.
Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils précieux, comme toujours. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Et vous savez quoi, Mélanie? Je crois que Stéphane a quelque chose à nous révéler aujourd'hui.
Oui, j'ai deux amours.
Votre pays est Paris?
Oui, ça c'est. On ne va pas parler évidemment de Joséphine Baker, mais plutôt de Cléopâtre, qui avait deux amours, Jules César et Marc-Antoine, ouais. Puis du roi Henri II, qui avait deux amours, mais lui en même temps, Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Et vous ?
Eh bien, vous savez, Stéphane, vous avez du mal à le voir parfois, mais la société évolue, et aujourd'hui, on est au polyamour. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aimer plusieurs personnes en même temps, qui elles-mêmes ont le droit d'aimer d'autres personnes. C'est la théorie d'Hélène de Fougerolles, l'actrice que vous aimez bien.
Moi, je suis plus favorable à l'amour poli.
Merci beaucoup, messieurs. Très beau programme. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, bien sûr. Je vous le conseille. Restez sur Europe 1.